Adapsi Daily Bodo de A.
Bon, évidemment, nous sommes très heureux de recevoir Édouard Glissant à Uzest aujourd'hui. Voilà, je vous remercie d'être là. Et c'est grâce à Christopher Higdre, qui est cofondateur de la coopérative de diffusion Cohérence, qui nous aide à réfléchir, à travailler, à perdurer ici depuis quelques années, que Édouard Glissant est là. C'est aussi parce qu'on a lu de lui, ce qu'on a réfléchi de lui, et je vous conseille d'acheter l'Uzest, où il y a quelques paragraphes, simplement avec des intitulés pour vous mettre en bouche. Contre l'image spectacle pour la transformation, colonisation des mentalités et des imaginaires, philosophie caribéenne, négritude debout, antillanité, chaos monde, poétique de la relation, créolité, créolisation, et le maudit, la manière d'être. Voilà, alors on se sent à Uzest, évidemment, interpellé par cette pensée, dans tout le tremblement, comme on dit chez nous ici, et tout le tremblement. Christophe.
Bonjour. Donc j'ai la tâche d'introduire. Je vais peut-être juste déjà dire une chose sur Cohérence, qui s'orthographie CO-errance, ERANCES. Et là-dedans, l'idée d'errance, quelque part, on la doit aussi aux écrits et aux réflexions d'Édouard Glissant. Donc le errer avec. Peut-être juste dire deux ou trois choses qui me semblent importantes et décisives, notamment concernant l'intitulé même de la discussion aujourd'hui, qui est la pensée du tremblement. Donc une invitation d'Édouard Glissant, mais également peut-être avant parler de d'autres mots ou d'autres concepts qui permettent de nommer des réalités que l'on peut percevoir, que l'on peut comprendre comme étant des réalités palpables au sens où on les vit, mais que l'on ne sait pas toujours nommer. Et je pense, par exemple, c'est ce qui s'est passé avec le terme de mondialité, qui avait été proposé par Édouard Glissant il y a quelque temps déjà, et qui permettait de trouver, à travers ce terme, ce qui nous échappait avec celui de mondialisation, c'est-à-dire l'idée que le monde ne peut se vivre sans oublier une des particularités, une des diversités qu'il constitue, qu'il compose, tout en pensant qu'aujourd'hui, l'ensemble de ces diversités, des particularités qui constituent le monde, le tout monde, sont en perpétuelle relation et sont articulées les unes aux autres, qu'on le veuille ou non. Il y a également, évidemment, puisque en plus cette année à Uzest, on va parler beaucoup de créolisation, il y a le terme même de créolisation sur lequel il serait intéressant de revenir et de discuter. Et puis donc, plus récemment, la pensée du tremblement, qui correspond peut-être pas seulement à une manière de penser, mais aussi à une manière d'être et de vivre et d'exister dans un monde où le tremblement, sans doute, est de moins en moins toléré, dans le sens où il fait désordre. Donc, je voulais juste insister sur le fait qu'à travers ces concepts, que ce soit celui de mondialité, de créolisation, de pensée du tremblement, mais aussi on pourrait parler encore du tout monde, de chaos monde, personnellement, par exemple, je les ai toujours compris comme me permettant de nommer des réalités et des possibles qui ne se nommaient pas jusqu'à maintenant, parce que sans doute aussi les langages dominants masquent et recouvrent et occultent la possibilité de nommer des réalités qui sont riches en possibles et en espoirs. Donc voilà, c'était une introduction à... Bon, il pourrait y en avoir beaucoup d'autres, quoi. Mais c'était donc une introduction parmi d'autres possibles. Et donc maintenant, je vais donner la parole à Édouard, peut-être en lui demandant de commencer par expliquer la pensée du tremblement.
Bonjour et merci de m'avoir invité ici. Je vous assure que je ne sais pas ce que je vais dire. Et ça, c'est important. Il ne faut rien préparer sur la pensée du tremblement. Parce que alors, ce n'est plus la pensée du tremblement. C'est la pensée fixe, définie, établie une fois pour toutes. Je pourrais faire une brillante conférence, ça, absolument structurée, organisée, etc. Et peut-être même convaincante du point de vue intellectuel, mais qui ne comprendrait pas vraiment le sujet, ça, dont nous allons parler. Donc je pars dans le vide, et ce que je constate au départ d'une réflexion véritable, c'est que le monde d'aujourd'hui, le monde autour de nous, quelles que soient nos opinions, quelle que soit notre manière de vivre ce monde, que nous soyons à l'aise dedans ou mal à l'aise dedans, que nous soyons pour ceci ou pour cela, c'est un monde qui, d'une part, est inextricable, c'est-à-dire qu'on ne peut pas le réduire à des formules ou à des prises de position données une fois pour toutes, et que c'est un monde aussi qui est imprédictible. C'est-à-dire que nous ne pouvons absolument plus considérer que dans ce monde-là, nous pourrions préparer des formules, des positions, des propositions qui tendraient à ceci. Je sais comment le monde va évoluer et j'agis dessus. Ça, c'est une. Nous pourrons discuter de ce point-là. Ce serait intéressant d'ailleurs d'en discuter. Est-ce qu'on peut prévoir le monde? Et la question, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut plus prévoir le monde. Il est imprédictible. Malheureusement, les puissants de ce monde et les puissances de ce monde continue à fonctionner comme si on pouvait non seulement prévoir le monde, mais aussi comprendre cet inextricable et en dégager des lignes d'action qui, le plus souvent, sont des actions oppressives et des actions calamiteuses. Et c'est ainsi que nombre de puissances de ce monde, je ne parle pas seulement des États-Unis, d'Amérique, nombre de puissances de ce monde appliquent à la réalité de notre univers, de notre tout-monde, des lignes de réflexion et des lignes d'action qui sont des lignes fixées d'avance et qui ne tiennent pas compte de cet inextricable du monde dont j'ai parlé et de cet imprévisible du monde dont j'ai parlé. Et par conséquent, ce sont des lignes d'action vouées à l'échec, mais qui, avant d'échouer, accablent le monde d'une série invraisemblable de catastrophes, d'holocaustes, de massacres et de maintien de populations entières dans une misère et une souffrance inqualifiables. Et par conséquent, il est intéressant, alors même que nous nous trouvons un peu démunis face à cette puissance qui accable le monde de partout. Et une fois de plus, je dis, c'est pas seulement les États-Unis d'Amérique. Nous nous trouvons démunis, mais face à cela, nous devons commencer à proposer non pas des solutions, mais des pistes d'idées qui sont capables de fragiliser ces actions absolument terrifiantes de ce que j'appelle les puissances de ce monde. Et il ne s'agit pas de penser pour ceci, c'est-à-dire que je ne crois pas à une espèce de finalité du militantisme. Il s'agit de savoir ce qui se passe réellement dans le monde. Et moi, je dis que nous, la pensée du tremblement, c'est la pensée qui s'accorde à la situation actuelle du monde. Ce n'est pas la pensée de l'hésitation. Ce n'est pas la pensée de la peur. Ce n'est pas la pensée du doute. Ce n'est pas le tremblement qui est une sorte de repli, de défense. Et non, c'est le tremblement qui va à la rencontre du tremblement du monde. Or, le monde tremble. Le monde tremble en ce moment. Il y a des séismes de culture et il y a des bouleversements géologiques. Il y a tout s'anime. On dirait que en ce moment la situation géologique du monde, on dirait que le monde, la planète Terre est arrivée à un point où elle s'est constituée plus ou moins depuis des milliers d'années ou des millions d'années, les cinq continents, les mers, etc., etc. Et puis que maintenant, on dirait que tout ça qui s'était constitué va un peu se défaire, déjà va un peu se déliter. Les tremblements de terre se multiplient, les inondations, les volcans, les éruptions, il y a une sorte d'état géologique et cosmique de la planète sans compter, qui est extraordinaire, sans compter que en ce moment, bon, mais la question commence à se poser, est-ce que l'homme, les humanités sont bien dans ce monde, est-ce qu'il ne le tue pas, est-ce qu'il ne le pollue pas au point qu'on va aller vers des catastrophes finales, etc. Et par conséquent, il y a aussi le tremblement sismique des cultures de l'homme. C'est-à-dire que toutes les cultures de l'homme en ce moment, il n'y en a aucune qui soit sauve et préservée des autres. Toutes les cultures de l'humanité en ce moment font une sorte d'action et de réaction les unes sur les autres. Et c'est pour ça que je dis que le monde est inextricable, n'est-ce pas ? On ne peut plus dire aujourd'hui toutes les formules qui faisaient autorité avant, on ne peut plus les employer. On ne peut plus dire aujourd'hui, par exemple, dis-moi quelle langue tu parles, je te dirai qui tu es. C'est impossible, c'est fini. D'abord parce qu'il y a des enfants qui parlent 4-5 langues, ça, avec aisance. Nous ne sommes pas capables, parce que notre cerveau est rétréci sur cette question. Nous employons peut-être 3% ou 4% des puissances de notre cerveau sur la question des langues, des linguistiques. Mais il y a des enfants, à l'heure actuelle, qui parlent 4 ou 5 langues avec une aisance et une maestria extraordinaire, qui sont capables de passer d'une langue à l'autre et sans faire ce qu'on appelait avant des anglicismes, des gallicismes, des barbarismes. Pas du tout. Ils adaptent la langue et les langues entre elles, et ça fait une nouvelle poétique. Ça fait une nouvelle conception du monde. Et de même, on ne peut plus dire aujourd'hui je suis et je suis une fois pour toutes. C'est pas vrai. Parce que je suis, mais je change. Je change parce que le monde tombe sur moi, projette sur moi, a un impact sur moi. Et même sans le savoir, je change. À un moment, je supporte pas les Ouzbeks. On ne sait pas pourquoi, d'ailleurs. Enfin, c'est comme ça. Et puis un jour, je suis à la télé, je vois une émission sur les Ouzbeks. Je dis, ah, mais c'est comme ça alors. Et je commence à entrer dans une autre relation avec les Ouzbeks. Et cette relation, ce n'est pas une relation, disons, raisonnable. Ce n'est pas une relation de raison. Par exemple, je vois une émission à la télé. La télé, il y a deux choses qui ont multiplié le tout le monde, n'est-ce pas ? C'est les colonisations. Les colonisations ont rapproché toutes les terres entre elles. Les colonisations anglaises et françaises du 19e siècle, c'est ça qui a fait que tout ça s'est réuni. Et puis la télévision. Je vois à la télévision une émission sur les aborigènes d'Australie. Ils parlent. Je ne comprends rien à ce qu'ils disent. On me met un sous-titre ou bien on me double, donc j'ai une idée. Mais au moment où ils parlent, je ne comprends rien de ce qu'ils disent. Mais au moment où ils parlent, quelque chose de leurs paroles entre en moi sans que je comprenne et commence à me changer. N'est-ce pas ? Et c'est... Et ça, vous pouvez faire l'expérience tous les jours autour de vous. C'est pour cela que la musique peut changer, n'est-ce pas ? Parce que la musique des paroles d'un aborigène peut me changer sans que je comprenne ce qu'il dit. Ce qu'il dit. Et par conséquent, nous entrons dans cette ère nouvelle où aucune culture n'est préservée, sauf des autres. Et on a, j'étais une fois, je raconte tout le temps, je raconte cette histoire. J'étais une fois à un colloque au Canada, un colloque universitaire, et il y avait un professeur du Québec qui disait, moi je suis né à Toronto. Ma femme est une lettonne, on s'est rencontrés en Suède, un de mes fils est né à Mexico, l'autre est né en Australie, l'un enseigne maintenant en Californie, l'autre est à l'Ouest, et nous vivons maintenant à Québec, etc. Et alors, qu'est-ce que je suis, disait-il, angoissé, qu'est-ce que je suis? Et moi, je lui dis, mais vous êtes ce que l'humanité sera au siècle prochain. Ça se passait avant l'an 2000. C'était en 1998. Je lui dis, vous êtes ce que l'humanité sera. Vous êtes complexe, inextricable. Vous ne pouvez pas donner de formule raisonnée de ce que vous êtes. Parce que vous êtes complexe et inextricable comme le monde, et que vous changez. Et c'est la première fois que je lui disais, que je disais cela en public. Je lui dis, on peut résumer ceci en disant que je peux changer en échangeant avec l'autre, sans me perdre pourtant, ni me dénaturer. C'est ça ? Et il était rayonnant. Il dit, ah, c'est sensationnel. Alors je dis, ce qui est terrible, c'est que vous avez besoin de moi pour vous dire ça. Alors que vous devriez, parce que vous êtes encore dans la pensée, l'ancienne pensée. Et quelle est l'ancienne pensée? C'est ce que j'appelle la pensée de système, ou les systèmes de pensée. C'est-à-dire la pensée qui croit, premièrement, qu'on peut agir sur le monde pour le changer en fonction de mes idées, bien sûr. Non pas en fonction de la situation du monde, mais en fonction de mes idées, n'est-ce pas ? Deuxièmement, que je suis absolument inchangeable, c'est-à-dire que je suis donné une fois pour toutes, n'est-ce pas ? Et c'est cela que la pensée du tremblement essaie à la base, non pas seulement de combattre, mais de miner, n'est-ce pas, comme une charge qu'on met en dessous d'un donjon, ou d'un, n'est-ce pas, pour miner tout ça. Et la pensée du tremblement, ça veut dire ceci, essayons plutôt de trembler en nous penchant vers l'autre, plutôt que d'être sûrs de nous-mêmes au moment où on va frapper l'autre. Essayons de comprendre comment le monde à son tour tremble. Mettons-nous en accord avec le monde. Tremblons du tremblement du monde. Ce n'est pas un tremblement de faiblesse. Ce n'est pas un tremblement d'hésitation. C'est le tremblement de celui qui vit la vie du monde. Et vivre la vie du monde, c'est peut-être ce qui nous est donné de plus fantastique aujourd'hui. Merci.